Et avec Léa Salamé, nous vous proposons aujourd'hui un grand entretien en forme de débat. Vous connaissez désormais ce rendez-vous du 7-9 qui nous permet, au-delà des candidats, des candidates, au-delà des programmes politiques, de nous arrêter sur des sujets qui seront au cœur de l'élection présidentielle. Aujourd'hui donc, on va parler d'économie française.
Et oui, et justement, dans quel état est notre pays aujourd'hui au terme du quinquennat d'Emmanuel Macron? Comment se projette-t-on sur les 5 ans à venir? La crise du Covid a montré que la France avait dans un premier temps était incapable de produire des masques, des respirateurs, des tests, du paracétamol. D'où dans le débat économique et de cette pré-campagne, à gauche comme à droite, la volonté de reconstruire notre souveraineté économique. Ce sont des mots qui reviennent très souvent. De réindustrialiser la France, de relocaliser, de défendre le made in France.
Et on va donc en débattre ce matin avec Nicolas Bavret et Daniel Cohen. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Sur France Inter. Nicolas Bavret, vous êtes économiste, essayiste. Le titre de votre dernier livre, c'est Reconstruction au pluriel aux éditions de l'Observatoire. Daniel Cohen, vous êtes président de l'École d'économie de Paris. Alors commençons par le contexte de cette campagne avec la photographie de l'économie française à l'instant T. Emmanuel Macron comme Bruno Le Maire ne cessent de vanter la solidité de la France, la croissance qui sera de plus de 6% cette année, le chômage en recul ayant rejoint son niveau d'avant Covid. Avec ces indicateurs, Daniel Cohen, l'exécutif est-il de la pensée magique ou partagez-vous son optimisme ?
Comme tous les économistes, j'ai été surpris de la capacité de rebond, non pas simplement d'économie française, mais de l'ensemble des économies des pays avancés. Quand la crise a commencé l'année dernière, en 2020, on avait un choc qui ne se comparait à aucun autre. On avait un choc d'une puissance, d'une violence qui nous ramenait dans les années 30. L'INSEE avait calculé que le recul du PIB en 2020, au premier trimestre, c'est-à-dire en fait avant que le confinement ne commence à proprement parler, puisqu'il n'a commencé à mordre qu'au mois de mars, le recul avait été supérieur à celui qu'on avait enregistré en mai 68 en France. À l'époque, on pensait que la France avait arrêté de travailler. Donc on était sur un choc d'une violence incroyable. Et j'ai envie de dire, la profession des économistes dans son ensemble a pensé, voilà, on est en train de répéter, comme en 2008, un choc majeur. Les prévisions, c'était un taux de chômage à 2 chiffres. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable, en partie parce que l'alarmisme des économistes a conduit à mener des politiques très expansionnistes. Le quoi qu'il en coûte en France, mais dont on a trouvé différentes versions dans tous les pays avancés. Mais au-delà de ces mesures, on découvre que ça repart et que le risque n'est pas le chômage, mais qu'il est l'inflation, que ça n'est pas le sous-emploi, mais que c'est le pouvoir d'achat.
Donc on est dans une situation... Donc vous êtes tous trompés d'une certaine manière,
ouais,
pardon.
Ouais, on s'est tous collectivement trompés en sachant que cette erreur est peut-être endogène en quelque sorte à l'erreur elle-même. C'est-à-dire qu'en alertant, on a en fait conduit à mener des politiques. Mais oui, c'est vrai, il s'est passé quelque chose de très différent des crises antérieures. Si vous me permettez une métaphore très rapide, dans les crises antérieures, on est un peu coincé comme des voitures dans un embouteillage, il y a le feu rouge, le feu passe au vert, et avant que vous démarriez, il faut attendre que la voiture de devant démarre, et celle d'avant, etc. Et en fait, souvent, on rate le feu. C'est comme ça que ça marche dans les crises financières. On est tous très inquiets, et on attend que ça reparte pour repartir soi-même. Ça fait un très long délai de redémarrage. Là, le feu passe au vert, tout le monde est sorti. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce soit une très bonne nouvelle en soi, parce qu'on a vu l'année dernière que ça a créé une recrudescence des taux d'incidence. Mais c'est comme ça que ça a marché. Du coup, personne n'était préparé. Du coup, crise inflationniste, parce que tous les marchés ont été brutalement tendus.
Nicolas Bavret, vous partagez le constat, la surprise et le mea culpa de Daniel Cohen. Est-ce que vous diriez vous aussi que vous vous êtes trompé? Vous ne pensiez pas que le pays tiendrait aussi solidement? Et comment vous le voyez aujourd'hui, le pays? Est-ce que vous diriez que cette croissance qui repart, c'est du rattrapage ou que ça peut être une croissance durable?
Alors, il y a deux questions. La première, c'est vrai que ce choc n'a ressemblé à aucun autre. Pourquoi? Parce que il n'est pas venu d'un déséquilibre du capitalisme comme un krach boursier ou comme une récession. Il est venu du fait que les États ont fermé les économies pour des raisons sanitaires. Et du coup, c'est un choc dont on n'avait pas d'expérience. Et ça explique pourquoi cette reprise est très particulière et qu'elle est marquée par quelque chose qu'on n'avait pas connu d'ordinaire, ce sont les contraintes de l'offre. C'est-à-dire qu'on manque de matières premières, on manque de semi-conducteurs, on manque paradoxalement de main-d'œuvre, y compris dans un pays comme la France où on a quand même encore 5,8 millions de chômeurs. ailleurs. Donc ça, c'est vrai que cette reprise, de ce point de vue-là, elle est très particulière, mais ça vient de cette nature du choc.
Mais elle est robuste, la reprise.
Alors, ça, c'est la deuxième.
Du rattrapage, vous demandez.
Ça,
Léa.
C'est la deuxième question. C'est vrai que en matière instantanée, l'année 2021. Peut paraître une année extrêmement brillante. On va avoir une croissance même de 7% en France, qu'on n'a pas connue depuis la fin des années 60. Le chômage diminue. Et donc, tout ça, évidemment, est par ailleurs positif. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un effet de rattrapage puissant, puisqu'on a fait moins 8 l'année d'avant. Et surtout, on a quand même des indicateurs d'alerte importants. Premier indicateur d'alerte, le déséquilibre du commerce extérieur. Moins 70 milliards cette année, moins 90 milliards sans doute en 2022. Et ça, ça montre quoi? Ça montre bien le problème structurel de l'économie française. C'est un peu comme ce qui s'était passé en 1981, c'est-à-dire qu'on remet beaucoup avec la dépense publique, on remet du pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat, l'économie française a fait moins 8 en 2020, mais le pouvoir d'achat a fait plus 1,3. Ça, c'est grâce à la dette.
Et donc, ça
publique.
Veut dire quoi, ça?
Et ça, ça veut dire que...
C'est inquiétant, c'est bien, c'est quoi?
Ça veut dire qu'on a une production qui ne suit pas. Donc, le modèle économique français reste un modèle déséquilibré, c'est-à-dire que c'est un pays qui ne vit plus que de la consommation, de la distribution, et non pas de la...
On va venir à la réindustrialisation,
de la production. Et la deuxième chose, c'est quand même... que du point de vue du chômage, c'est vrai qu'il diminue, mais je rappelle que la plupart des autres pays sont en plein emploi, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et la troisième limite, c'est évidemment l'état des finances publiques. Et là, juste un mot pour dire que la France est quand même différente des autres pays. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on voit que le quoi qu'il en coûte continue, aujourd'hui, sur les PGE, sur les aides, et que surtout, l'État, si vous voulez, ça c'est quand même important, l'État a changé de nature, c'est-à-dire que l'État a ouvert une nouvelle fonction où l'État garantit les revenus des ménages, y compris contre l'inflation, et le chiffre d'affaires des entreprises, y compris contre la hausse des matières premières. Et ça, franchement, c'est
l'État
insoutenable.
L'État nounou.
C'est plus que l'État nounou, c'est l'État garant des revenus contre l'inflation et du chiffre d'affaires des entreprises.
Alors, quelques mots précisément sur l'inflation. Dominique Seux y consacrait son édito tout à l'heure. Taux d'inflation dans la zone euro qui atteint un nouveau record en novembre, quasiment 5% sur un an, toujours propulsé par les prix de l'énergie. Selon Eurostat, qui n'avait jamais enregistré un tel chiffre depuis le début de ses estimations. Et c'était il y a plus de 20 ans. Daniel Cohen, est-ce le gros nuage dans le tableau économique global? Doit-on s'en inquiéter ou pas?
C'est le grand nuage, c'est sûr. Quand on interroge les Français, la première question, c'est, devant toutes les autres, de très loin, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'on voit effectivement cette explosion d'inflation. Elle est plus modérée en France qu'elle n'est dans la zone euro, vous aviez raison. C'est 4,9, pratiquement 5 dans la zone euro en France. Alors, dans les statistiques d'Eurostat, parce qu'ils ne calculent pas comme nous, et pour le rapporter à 4,9, ce serait 3,4, mais chez nous, l'INSEE, c'est 2,8 le dernier chiffre, donc c'est tout à fait considérable, et c'est en train de rogner le pouvoir d'achat des salariés, puisque l'augmentation naturelle des salaires est évidemment, pour l'instant, très en deçà de ce chiffre.
Qu'est-ce que vous pensez de... Pardon, on en a parlé avec Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est vrai qu'il y a ce chiffre de l'INSEE qui dit... l'INSEE affirme que le pouvoir d'achat n'a pas baissé des Français. Alors, c'est ce que dit l'INSEE. Nicolas Dupont-Aignan m'a répondu, mais vous êtes... venez voir, les gens souffrent, c'est une catastrophe, etc. Que doit-on penser? Il y a les chiffres, il y a le ressenti des gens et les fins de mois où parfois on n'arrive pas à payer.
Oui, parce que le chiffre, c'est des moyennes et ça cache une formidable disparité de situation entre les gens. Le chiffre moyen a augmenté. Le PIB, Nicolas le rappelait, le chiffre de croissance sera 6, quelque chose, 7. On ne sait pas trop. Ça va sans doute être un tout petit peu plus faible à cause justement de ce pic inflationniste. Donc le revenu disponible suit aussi cette tendance parce que le nombre d'heures travaillées augmente aussi, mais l'augmentation spontanée des salaires ne suit pas du tout cette tendance inflationniste qu'on est en train de connaître. Il y a tellement de diversité de situations. L'Institut des politiques publiques a fait un bilan du quinquennat, on va y revenir sans doute, sur les mesures en faveur des uns et des autres. On voit qu'au sein de chaque décile, au sein de chaque centile, il y a entre 50, parfois 75% de gagnants, de perdants, de gens qui ne sont pas concernés par ces mesures. Ça descend au mieux à 25-30%. 30%, ça veut dire qu'il y a une telle disparité de situation que quand les gens disent « moi je vois rien », oui, il y a sûrement entre 30 et 40% de gens qui ne voient rien. Donc c'est juste pour dire qu'il ne faut pas opposer les chiffres et la réalité des gens parce qu'il y a trop de disparités. Mais cette question du pouvoir d'achat, en effet, elle est centrale et la grande question que tout le monde se pose, est-ce que c'est un pic, c'est une bosse, ça va retomber? Auquel cas, Nicolas, je pense que la bonne mesure est en effet de faire ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire d'éviter un emballement de la spirale prix-salaire pour tenir le temps que ça revienne. Si en revanche on se trompait et que ça n'était pas juste un pic mais que ça devenait durable, à ce moment-là, le gouvernement ne va pas pouvoir suivre indéfiniment.
Alors avançons et venons-en à la souveraineté économique, à la volonté de relocaliser en France des industries qui ont disparu. Beaucoup, nombre de candidats étaient présents cette année au salon du Made in France qui est devenu un passage obligé comme le salon de l'agriculture. La souveraineté économique, Nicolas Bavray, c'est un mot d'ordre de campagne ou quelque chose de beaucoup plus profond, une nouvelle ère après celle de la mondialisation, appelons-la heureuse ou naïve?
Mais j'allais dire que la mondialisation, en tout cas dans sa version libérale et dérégulée, de toute manière, elle est morte depuis 2008. Et on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, elle est en train de se restructurer autour de grands blocs. Donc, il y a le bloc chinois qui se referme, il y a les États-Unis, et le problème, c'est de savoir si l'Europe va arriver à s'organiser pour exister dans ce nouveau climat. J'ajoute qu'on a également des tensions géopolitiques qui sont croissantes et qui jouent un rôle extrêmement important. Donc, la première chose à dire, c'est que la souveraineté, en tout cas nationale, française, en matière économique, elle a aucun sens. On va pas réindustrialiser pour un marché de 67 millions d'habitants. En revanche, on a évidemment un marché de 450 millions d'Européens. Dans cette logique de reconfiguration, c'est celui-là sur lequel il faut essayer d'être présent, alors même que l'an dernier, on a encore perdu un point de part de marché sur la zone euro, ce qui montre bien la fragilité de l'économie française. Alors, ensuite, comment faire? D'abord, il faut être clair, l'objectif, c'est de diminuer la dépendance qu'on a vue vis-à-vis de la Chine pour les biens essentiels, vis-à-vis des États-Unis pour la technologie. Donc, ça, pour le faire, ça veut dire qu'il y a plusieurs moyens déjà de diminuer cette dépendance. Ça peut être aussi de diversifier les sources d'approvisionnement. Il est certain qu'on ne va pas tout relocaliser, parce qu'on ne peut relocaliser que dans des domaines où on est compétent et où on est performant.
Lesquels?
Ben, ensuite, il peut y en avoir beaucoup. Il y a des secteurs d'avenir. Et puis, prenez un exemple tout simple. Prenez la chaussure. Il y a différentes manières de faire de la chaussure. Si on fait de la chaussure bas de gamme, c'est très compliqué. Si on fait de la chaussure haut de gamme, du luxe, la France, effectivement... Mais prenons le textile. Il y a des manières aussi de reconstruire une offre française. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des produits de luxe ou de haute technologie. En revanche, ce qui est certain, c'est que si on veut arriver à faire ça, eh ben, il faut travailler sur tous les facteurs de production. Il faut travailler donc sur... vous savez, il y a une étude du Conseil de la productivité qui est impressionnante. Il y a un poste sur deux dans le secteur privé qui est occupé par des gens qui n'ont pas les qualifications suffisantes. Donc on voit qu'il y a un gros déficit de formation. Travailler sur l'investissement et le capital avec un nouveau partenariat entre l'État et les entreprises, on a vu aux États-Unis à quel point c'était important. Et travailler également sur l'énergie qui est très importante. Et là-dessus, il faut être clair, il va falloir prendre maintenant position nettement sur le renouvellement du parc nucléaire.
Vous écoutez Nicolas Bavray, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Emmanuel Macron a présenté le plan France 2030. Patrick Artus, économiste de Natixis, disait que c'est un mirage de penser qu'on va créer de l'emploi en réindustrialisant, à cause de la robotisation principalement. Vous pensez quoi de ça, de cette campagne présidentielle qui est marquée par les thèmes du Made in France, de la souveraineté économique, de la réindustrialisation?
Je pense comme Patrick Artus, c'est-à-dire que ça ne va pas créer d'emplois en France. Ça ne veut pas dire que ce que disait Nicolas à l'instant n'était pas juste. Il faut qu'on soit capable de produire les biens essentiels dont on a besoin. Il faut s'entendre sur cette liste de biens essentiels. Le point de départ, en tout cas, que je partage totalement avec Nicolas, c'est cette idée que la mondialisation a perdu son souffle depuis longtemps. Alors 2008-2009, oui, pour ce qui concerne les flux financiers, mais je pense que le coup de grâce, c'est la venue au pouvoir de Trump aux États-Unis, qui a clairement annoncé qu'on on sortait du monde libéral pour ce qui relève du commerce international, qui a déclaré la guerre à la Chine pour des raisons strictement de politique interne, parce qu'il a vu que taper sur les Chinois, ça lui rapportait des voix, et Biden continue exactement ça pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ça rapporte des voix de taper sur les Chinois. Donc pour des raisons en fait de politique interne, on est en train de reconfigurer l'ordre mondial, et c'est ça qui est en train de se passer. Donc il ne faut pas être naïf, on ne veut pas être les seuls à jouer le multilatéralisme quand en fait des grandes zones sont en train de se reconstituer. Et oui, l'Europe est la zone pertinente où on doit repenser une forme de relocalisation. Maintenant, la relocalisation...
Mais vous n'avez pas l'air très convaincu par l'idée de réindustrialiser, de relocaliser.
Non, je pense qu'il faut... Moi, je ne raisonne pas exactement comme ça, même si j'entends les raisonnements. Moi, je pars des besoins sociaux dans un pays comme la France, et je crois que c'est de là qu'il faut partir. Il faut aider nos entreprises, nos industries à tenir le choc qui se prépare. Quel est le choc majeur ? C'est le choc de la transition climatique. Toute l'industrie va devoir être repensée au vu de cet objectif de zéro émission nette. Il faut aider nos entreprises dans l'aviation, dans l'automobile, dans tout ce qu'on voudra, à assumer cette transition. Elles ne pourront pas le faire seules. Elles ont besoin du soutien de l'État pour les innovations majeures qui coûtent beaucoup trop d'argent par rapport à leur capacité individuelle. Donc bien entendu, il faut faire ça. Mais je crois qu'on n'est plus dans cette période-là. On est dans une période aujourd'hui où il faut partir des besoins sociaux de notre pays, des sociétés industrielles en général, et essayer de voir comment les nourrir. C'est quoi les besoins sociaux ?
On ne décide plus d'une politique industrielle comme à l'ancienne, pendant les 30 glorieuses.
On part plus de l'offre, on part de la demande sociale qu'il faut monétiser, qu'il faut solvabiliser. Quelle est-elle ? L'énergie. Effectivement, question numéro un, énergie propre. Ça ne va pas se produire tout seul, donc il faut réfléchir en profondeur aux moyens de faire qu'on arrive à une énergie propre. La santé, on a vu à quel point c'était essentiel. Il faut, bon, bien entendu, les médicaments, les vaccins, etc., il faut qu'on soit beaucoup plus fort qu'on est, mais il faut repartir des besoins sociaux. Est-ce qu'on est content de la politique hospitalière qu'on a ? Est-ce qu'on est content de la manière dont on utilise l'économie numérique aujourd'hui pour accompagner les malades ? Est-ce qu'on donne à nos hôpitaux l'intelligence nécessaire pour dompter ce nouvel animal qui s'appelle le télétravail, qui s'appelle la télémédecine ? Il faut réfléchir au territoire. On a vu les gilets jaunes. Est-ce qu'on est certain qu'on est à l'aise avec la manière dont l'organisation de l'espace s'est faite ? Donc ça veut dire qu'il faut réinvestir pour s'assurer qu'il n'y ait plus ces îlots de pauvreté dont les gilets jaunes ont été l'expression. Quand on voit ce que font les Américains, les États-Unis, ils solvabilisent à travers toutes leurs agences, celles du Pentagone, celles des biotech, etc. Ils solvabilisent une demande sociale. Il faut qu'on réfléchisse en profondeur à cette question et donner à nos acteurs les moyens de la solvabiliser, que ce soit aux hôpitaux, collectivités locales. On n'a pas parlé des universités qui sont des acteurs majeurs de cette transformation et qui sont dans un état de paupérisation avancée. Donnons-leur les moyens de rentrer dans ce nouveau monde du 21e siècle, sans négliger ce besoin ici et là, bien entendu, de réfléchir au secteur qu'on veut soutenir.
Un mot de réaction, Nicolas Bavré, rapidement.
Il y a trois grands défis pour le capitalisme, effectivement, et pour le système productif européen ou français. C'est le numérique, l'écologie et puis l'inclusion. On doit évidemment travailler sur la demande, mais l'offre est tout de même très importante. Il suffit de regarder, par exemple, la voiture électrique Tesla, c'est l'offre qui a révolutionné. Même chose pour l'espace qui va devenir extrêmement.
Mais on va pouvoir le faire, important. Nicolas Bavré, ou c'est trop tard ? On va pouvoir créer un Elon Musk français, un Google français, un Amazon français,
si vous voulez,
ou c'est trop tard ?
Mais si vous voulez, c'est le paradoxe de l'Europe, c'est que quand on regarde, on a tous les atouts qu'il faut, et y compris la France. On a les talents, on a les cerveaux. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de. La Silicon Valley est remplie de Français. Regardez ce qui s'est passé.
Mais pourquoi ils partent ?
Ils partent parce qu'il y a quand même un carcan réglementaire et fiscal qui est quand même pas très pratique. Regardez, on a un prix Nobel, Madame Charpentier, sauf qu'elle a expliqué elle-même qu'elle est à Berlin. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'elle ne pourrait pas conduire sur les ciseaux ADN. C'était impossible de le faire en France. Et donc, quand on prend Moderna, c'est un Français. Mmh. Quand on prend cette fameuse découverte de l'ARN messager, c'est quand même un enfant de Pasteur, sauf que Pasteur n'a pas voulu développer cette piste. Que ce sont largement des Français en partie ou des gens qui étaient passés chez Pasteur.
Mais on se trompe ou on est en déclin ? Qu'est-ce que vous décrivez là ?
Mais si vous voulez, l'histoire du déclin, c'est les gens donnent une dimension morale. En fait, c'est les faits. Si vous regardez l'économie française,
alors, on est en déclin.
On était la quatrième puissance du monde encore en 2000. On est la septième aujourd'hui. La croissance était de 4% dans les années 70 et elle est de 1% aujourd'hui. On a 10% de chômage structurel depuis un quart de siècle. On a
on est en déclin selon vous.
Voilà, mais si vous voulez, l'idée de le dire. C'est simplement de sortir du déni et évidemment pour remettre notre pays d'aplomb. Si vous regardez la trajectoire de l'histoire de la France, le général de Gaulle avait raison de le dire, c'est des hauts et des bas vertigineux. Donc ce pays est capable aussi de remonter spectaculaire. Il en a vraiment besoin aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut. C'est pas seulement une histoire de réforme, c'est une histoire
Daniel
de reconstruction.
Cohen, sur l'idée de déclin économique.
On peut reprendre les statistiques. Quand on regarde le PIB français, non pas avec des méthodes compliquées, mais simplement ce qu'il est en euros relativement au taux de change, on est toujours quatrième, cinquième à égalité.
Donc, vous
avec le Royaume-Uni,
la
Chine nous est passée devant, bientôt l'Inde, et un jour encore plus tard l'Indonésie. C'est des gens qui sont juste 5 fois plus peuplés que nous, donc c'est quand même la moindre des choses.
Mais ils étaient avant et on n'était pas... Ils étaient plus peuplés que nous et ils n'étaient pas devant.
Oui, mais c'est quand même une bonne nouvelle que l'Inde s'enrichisse, enfin le rapport de richesse. L'Inde est encore plus pauvre que nous avec 20 fois plus de gens, donc il faut quand même souhaiter un peu que cette remise à niveau se passe. Maintenant, ayant dit ça, moi je pense qu'il y a un certain nombre de domaines, en effet, dans lesquels depuis 10 à 20 ans, on a laissé s'installer une paupérisation interne. Je parlais des universités, pourquoi ils quittent? C'est pas juste pour les règlements, même si ça compte, c'est parce que la paupérisation est radicale. Un chargé de recherche niveau 2 qui a Bac plus 10, il commençait avant qu'on l'augmente à 2000 par mois, il était à 1700. C'est ce que le rapport Viviani avait dit. Comment vous voulez attirer des talents quand quelqu'un qui a Bac plus 10, qui parfois a fait des écoles brillantissimes, on lui propose 1700 pour démarrer?
Et aux États-Unis, c'est
possible.
Combien?
Je sais pas, c'est 5 fois plus pour commencer à peu près. On est donc dans
et
un
en
rapport...
Allemagne.
En Allemagne, ça dépend. Il y a des poches où, en effet, c'est beaucoup plus compétitif. Mais c'est pas seulement le salaire, c'est les moyens.
Les moyens mis à disposition.
C'est les moyens de produire, d'embaucher, d'avoir au sein des universités un écosystème qui permette d'être
compétitif. Vous pensez que ce débat va émerger dans la campagne présidentielle?
Je le souhaite, parce que si on doit revenir rapidement sur le quinquennat de Macron, il y a beaucoup de choses bien mal, etc., qui ont été faites. Mais il y a une chose qui a été complètement oubliée. C'est le corporatiste qui parle. J'en suis désolé, mais j'en profite. C'est la situation de l'université qui est quand même le poumon. Les universités aujourd'hui, dans l'aménagement du territoire, jouent le rôle des usinières. C'est comme ça qu'une région s'enrichit, c'est comme ça qu'elle prospère, c'est comme ça qu'elle attire des talents. Si on paupérise ce qui est ce nouveau poumon de nos sociétés post-industrielles, il ne faut pas s'étonner après qu'en effet nos chercheurs aillent à l'étranger.
Le temps file, je vous soumets la question sur l'application de France Inter de Léon. Vive la croissance économique qui va détruire l'humanité et le vivant en accélérant le réchauffement climatique. Déclaration évidemment ironique. On a beaucoup parlé de la croissance. Il faut tourner la page conceptuelle et regarder d'autres indicateurs que celui-ci. En quelques mots, Nicolas Bavray.
Je crois que la décroissance n'est pas du tout la bonne solution. D'abord, comme il a été dit, il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation de grande pauvreté, d'extrême détresse. Et dans le monde du Sud, je vois pas pourquoi, au nom de quoi, on leur interdirait de s'enrichir, de vivre mieux, d'être plus en sécurité et d'avoir une espérance de vie qui augmente. Mais on peut tout à fait avoir une croissance qui soit compatible avec ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire un développement écologique, du numérique, du progrès et de l'inclusion. Et c'est tout à fait faisable. À preuve d'ailleurs, en Europe, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Si vous regardez un pays comme le Danemark, en Europe du Nord, le Danemark arrive et est maintenant un pays qui est pratiquement neutre en carbone, avec une bonne inclusion, mais c'est pas un pays qui communie dans la décroissance.
Croissance, décroissance, Daniel Cohen, vous avez une minute.
Oui, mais je pense qu'il faut, votre auditeur a raison, il faut pas raisonner en termes de croissance stricto sensu, ni en richesse par tête, etc., mais en bien-être, en besoins sociaux. On sort d'une crise qui nous a obligés à penser très différemment de ce qu'on faisait avant. C'est une crise, on a été obligé de parler de la vie, de la mort, ce sont des choses dont on ne parlait plus depuis que les guerres ont quitté notre continent, qui a obligé les gens à comprendre à quel point le lien à autrui était important, de voir ses collègues, et en même temps on voit la montée du télétravail, c'est-à-dire quelque chose qui fait que on n'a pas envie de recommencer à travailler comme avant. Toutes ces considérations qui ne sont pas de croissance ou de pouvoir pouvoir d'achat stricto sensu, mais qui sont des questions existentielles, ce sont celles qui aujourd'hui se posent, et je crois qu'on irait trop vite si on restait sur ce focus du pouvoir d'achat et de la croissance. Il faut faire toutes les leçons qui se sont accumulées depuis les gilets jaunes. On est dans une société qui a du mal à produire du bien-être. C'est ça à quoi il faut réfléchir.
Merci à tous les deux. Merci Nicolas Bavret. Reconstruction, le titre de votre dernier livre aux éditions de l'Observatoire. Et Daniel Cohen, merci. Je rappelle que vous présidez l'école d'économie de Paris. France Inter.